La Société des Compagnons pour l'Évangile présente la Confession de foi de La Rochelle par le pasteur Pierre Courtial, cours pour laïcs donné par le Centre de formation chrétienne à la Faculté de théologie protestante de Paris.
Les premiers articles que nous allons voir aujourd'hui sont les articles 1 à 5 et j'ai donné comme titre à ces articles « La révélation de Dieu ». D'abord, voici le premier de ces cinq articles. Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence, spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Le « nous » du début, évidemment, c'est le « nous » de l'Église. Vous savez qu'on a prétendu, qu'on a affirmé que le protestantisme était une religion individuelle. Si l'on veut dire que le protestantisme est une religion où chacun doit être engagé par une foi personnelle, c'est vrai. Mais si l'on veut dire que c'est une religion individuelle, en ce sens que chaque protestant serait un pape la Bible à la main, ou que chacun pourrait croire ce qui lui chante, alors je dirais non. Le protestantisme réformé ne veut aucunement être une religion individuelle. Et ce n'est pas pour rien que notre confession de foi commence par ces mots « nous croyons et confessons ». Ce « nous », c'est le « nous » non seulement des théologiens, des pasteurs, des docteurs de l'Église, mais c'est le « nous » de tous les fidèles. C'est le « nous » des hommes et des femmes qui veulent confesser leur foi. Et il est important de voir qu'il n'est pas seulement dit « nous croyons », c'est bien ce que croit l'Église, ce que nous croyons, nous l'ensemble des croyants, mais c'est aussi ce que nous confessons, ce que nous proclamons. Nous voulons dire notre foi. Nous ne voulons pas que nos Français, nos compatriotes ignore ce qu'est notre foi. Et il y avait d'ailleurs une préface à cette confession de foi qui était une épître adressée au roi de France. Et c'est devant le roi, devant les princes, devant l'ensemble du peuple français que les églises réformées en France entendaient confesser leur foi. On croit du cœur et l'on confesse de la bouche. Et les croyants, les fidèles des églises réformées disent « nous croyons et confessons ». Ils n'ont pas honte de l'Évangile, ils n'ont pas honte de la parole de Dieu, nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous avons appris de la parole de Dieu, de la Sainte Écriture, et nous disons à tous ceux qui veulent bien l'entendre ce que nous croyons et confessons. Ensuite, viennent un certain nombre d'affirmations concernant Dieu. Ce que, quelquefois, on ne remarque pas à première lecture, et ce à quoi je me permets de vous rendre attentif, c'est que dans cette énumération concernant Dieu, il y a deux parties. La première partie, nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable. Voilà la première partie. Et puis, il y a une seconde partie qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Il y a là deux parties. Et il est important de voir pourquoi, parlant de Dieu, les églises réformées en France tiennent à dire à propos de Dieu, sur Dieu, deux choses que Dieu lui-même a dit sur lui par ses prophètes et ses apôtres dans la Sainte Écriture. Dans la première partie, il s'agit, je pense que je vais être bien clair pour tout le monde, de ce que les théologiens appellent les attributs incommunicables de Dieu. C'est-à-dire des attributs que l'on ne peut attribuer qu'à Dieu seul, que Dieu seul possède, que Dieu seul a. Dieu seul est une seule et simple essence. Le mot essence ici signifiant un seul et simple être. Et au fond, on peut dire que, du point de vue biblique, il n'y a qu'un être, un seul être au sens plein du mot être. Souvenez-vous de la révélation de Dieu à Moïse, « Je suis qui je suis ». Il n'y a qu'un être qui peut vraiment dire « Je suis ». Et ce seul être, c'est Dieu. Au fond, nous, nous pouvons parler de notre existence, cette existence que Dieu nous donne, mais nous ne pouvons pas parler de l'être. Et au fond, quand Descartes dit « Je pense, donc je suis », il dit quelque chose qui est déjà d'une certaine manière une déviation du point de vue chrétien. Dieu seul peut dire « Je suis ». Dieu seul est une seule et simple essence. Il est l'être. Celui qui peut dire « Je suis » et il est le seul qui a éternellement cet être, il est le seul qui peut dire éternellement « Je suis ». Spirituel, ce que aucune autre créature n'est vraiment. Éternel, ce qu'aucune autre créature n'est. Invisible, là aussi, il s'agit par rapport à nous, les hommes, d'une réalité de Dieu, d'un attribut de Dieu incommunicable, immuable, alors que nous, nous sommes changeants, alors que nous, nous ne sommes jamais fidèles à nous-mêmes, alors que nous sommes pleins de variations. Infini, alors que nous sommes limités et bornés. Incompréhensible, en ce sens que l'homme peut comprendre bien des choses parce que Dieu lui a donné de comprendre dans les domaines des sciences et des arts bien des choses, mais Dieu lui est incompréhensible et il faut prendre ce mot dans son sens étymologique, c'est-à-dire que Dieu peut nous saisir mais nous, nous ne pouvons pas le saisir. Dieu échappe à nos prises, aux prises de notre intelligence comme aux prises de notre volonté. Dieu est vraiment incompréhensible, c'est-à-dire qu'il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et penser, il est au-delà de tous les raisonnements des plus grands, de tous les théologiens. Dieu est celui qui, dans sa sainteté, ne peut qu'être adoré et c'est en ce sens que Dieu est totalement incompréhensible et il est ineffable en ce sens que nous ne pouvons rien dire de Dieu. Ce que nous pouvons dire de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit et nous révèle de lui-même. Mais quel homme oserait parler de Dieu s'il ne suivait pas en parlant de Dieu la parole de Dieu? Que pourrions-nous dire de Dieu? Qu'est-ce qu'un pasteur peut dire de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien peut dire de Dieu? Qu'il inventerait ou qu'il imaginerait ou qu'il penserait? Car seul Dieu nous dit qui il est, nous révèle qui il est. Et Dieu, on ne peut pas parler de lui, il est ineffable. Il est celui dont on ne peut pas parler. Donc nous avons là toute une description sur des bases d'ailleurs bibliques, les citations que fait la confession de foi le montrent, nous avons une description de ce que j'ai appelé les attributs incommunicables de Dieu, c'est-à-dire que Dieu seul a ces attributs-là. Et puis ensuite viennent ce qu'on a appelé les attributs communicables de Dieu, c'est-à-dire que l'homme, d'une certaine manière, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, peut avoir quelque chose de ces attributs-là. La seule différence, c'est que, vous le voyez, tous ces attributs communicables, la confession de foi y ajoute le mot « toute », qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste, toute miséricordieuse. Il peut y avoir dans l'homme, soit avant la chute, soit dans la régénération par l'Esprit Saint de Dieu, il peut y avoir une certaine capacité, une certaine sagesse, une certaine bonté, une certaine justice, une certaine miséricorde. Mais Dieu, lui, peut toute chose, alors que l'homme régénéré ne peut que quelque chose et qu'un commencement de quelque chose. L'homme peut acquérir une certaine sagesse, cette sagesse dont la crainte du Seigneur est le commencement, mais la sagesse de l'homme qu'est-elle à côté de la sagesse de Dieu, même quand il s'agit d'un sage inspiré par Dieu, et de même pour la bonté, pour la justice et pour la miséricorde. Mais vous le voyez, il y a dans ce premier article, parlant de Dieu, deux choses qui nous sont affirmées de Dieu. Et si je me permets d'employer des termes philosophiques, simplement pour abréger les affaires, je dirais que dans cet article nous est affirmée à la fois la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu. La transcendance de Dieu, c'est-à-dire par ses attributs incommunicables, Dieu nous montre qu'il est totalement autre que nous, totalement autre que tout ce qu'il a créé. Qu'en un certain sens, il est qualitativement totalement différent de tout ce qu'il a créé et qu'il y a une distance infinie entre l'homme et la création. Et puis, dans la seconde partie, cet article nous affirme l'immanence de Dieu. C'est que ce Dieu, qui est tout autre que sa création, entre en relation avec sa création et accorde même à ses créatures, les hommes, quelque chose de ce qu'il est lui-même. Il y a donc dans cet article à la fois l'affirmation de Elohim, le Dieu transcendant, et l'affirmation de Yahvé, qui est le même Dieu qu'Élohim, mais qui est le Dieu qui se communique et qui se révèle et qui entre en dialogue avec l'homme et qui parle à l'homme et qui régénère l'homme et qui donne à l'homme un peu quelque chose de ce qu'il peut lui communiquer de lui-même. Et je crois que nous devons donc saisir toute la plénitude d'adoration qu'il y a dans ce premier article. Quand nous disons que nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, nous voulons à la fois nous courber devant la sainteté transcendante de ce Dieu et nous voulons en même temps entrer en relation de connaissance et d'amour avec ce Dieu qui nous donne, parce qu'il nous a créés à son image, d'être ici-bas, par son Saint-Esprit, un petit commencement de ce qu'il est. Et il y a donc aussi cette immanence de Dieu en même temps que cette transcendance. La transcendance de Dieu nous évite de sombrer dans je ne sais quel panthéisme, dans je ne sais quelle confusion entre Dieu et sa créature. Et l'affirmation de l'immanence de Dieu nous empêche d'avoir les idées qu'ont les déistes, qui s'imaginent que Dieu est là, peut-être le créateur du monde, à la manière dont Voltaire disait qu'il ne pouvait pas penser que cette horloge existe et n'est pas d'horloger, mais je dirais d'un créateur insouciant de sa créature, sans rapport et sans relation avec elle et sans communication avec elle. Voilà ce qu'il y a dans ce premier article de la Confession de foi, cette double précision sur Dieu. Et je le répète, cette double précision qui ne vient pas de l'imagination des rédacteurs de la Confession de foi, mais qui vient de ce que Dieu nous dit lui-même qu'il est dans la Sainte Écriture. Et vous le voyez, pour chacun des termes de ce premier article, nous sommes référés à un texte ou à plusieurs textes de l'Écriture. Article 2. C'est ce Dieu, Elohim Yahvé, c'est ce Dieu dont parle l'Écriture sainte, qui se fait connaître aux hommes, premièrement par ses œuvres, aussi bien par leur création que par leur conservation et la manière dont il les conduit, deuxièmement et plus clairement encore par sa parole, qui au commencement révélé par oracle, a été ensuite rédigé par écrit dans les livres que nous appelons Écriture sainte. Voilà le deuxième article. Cet article est quelquefois compris de travers. Et je voudrais que nous l'entendions bien dans le sens même où il a été écrit. D'abord, il y a cette affirmation magnifique, Dieu se fait connaître. On pourrait prier des heures avec ces quelques mots-là dans le cœur. Dieu se fait connaître. Dieu ne se cache pas. Dieu se fait connaître. Dieu se révèle, car c'est la même chose. Dieu se révèle. Eh bien, nos pères, nos églises affirment que Dieu se fait connaître avec une abondance, avec une variété que nous ne pouvons pas imaginer. Et d'abord, Dieu se fait connaître dans toute l'œuvre de ses mains, les cieux, et on peut dire la terre, et tout ce que les cieux et la terre renferment, proclame la gloire de Dieu, ou pour reprendre des expressions de l'apôtre Paul, depuis la création du monde, la puissance éternelle et la divinité de Dieu se voient comme à l'œil quand on les considère dans les œuvres de Dieu, dans les ouvrages de Dieu. Nous aurons tout à l'heure à lire en groupe, à nous arrêter en groupe sur les versets 18 à 25 du chapitre 1 de la lettre de Paul aux Romains. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tout ce que Dieu a créé, y compris l'homme et le cœur de l'homme, nous parle de Dieu, nous révèle Dieu. Tout parle de Dieu, tout chante Dieu. Depuis les nébuleuses jusqu'au moindre brin d'herbe. Nous connaissons Dieu parce que nous sommes nous-mêmes à l'image de Dieu, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu se révèle, ne cesse pas de se révéler depuis le commencement du monde en tout et partout. Il y a une révélation incessante de Dieu dans l'œuvre de ses mains. La création, la conservation et la manière dont Dieu conduit toutes choses nous fait connaître Dieu. Et il y a donc une révélation universelle de Dieu. Et une révélation incessante, permanente de Dieu. Aucun homme ne peut s'excuser de ne pas croire en Dieu en disant que Dieu ne se révèle pas, parce que Dieu ne s'arrête pas de se révéler et de se faire connaître. Et si vous lisez, comme vous le lirez tout à l'heure attentivement, le chapitre 1 de la lettre aux Romains, versets 18 à 25, vous verrez qu'il nous est affirmé cette révélation universelle de Dieu pour affirmer, hélas, en même temps, que les hommes sont donc inexcusables. Et pourquoi les hommes sont-ils inexcusables ? Parce que Dieu, ne cessant de se révéler à eux, de leur révéler sa puissance éternelle et sa divinité dans tout ce qu'il fait, dans la création, dans le gouvernement du monde, les hommes cependant préfèrent aimer, servir et adorer la créature au lieu du Créateur. Le cœur de l'homme était fait pour l'amour de Dieu. Dieu avait créé l'homme à son image pour que l'homme aime Dieu. Et voici que le cœur de l'homme, qui devait être fixé sur Dieu, a été comme déboussolé, et il va cherchant à servir et à adorer je ne sais quelles idoles, je ne sais quels faux dieux, des créatures au lieu du Créateur. Et tel prendra comme divinité la science, tel autre la révolution, tel autre la race, tel autre le vin, tel autre l'argent. Et les dieux, les faux dieux que s'invente l'homme sont innombrables, mais en choisissant de servir la créature au lieu du Créateur, et au lieu d'adorer Dieu qui l'a créé à son image, l'homme, en faisant cela, est inexcusable. Donc, nous devons savoir cela. D'ailleurs, je dirais cela a des répercussions pour la compréhension, non seulement de tout ce que l'on appelle généralement les religions, mais valable pour la compréhension de toutes les pensées systématique que l'homme se crée et s'invente. Le cœur de l'homme, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, Dieu y a placé la pensée de l'éternité, ou on pourrait traduire la pensée de l'absolu. L'homme est fait pour croire en l'absolu. S'il ne croit pas au seul absolu qui est Dieu, il va absolutiser une créature pour l'adorer et la servir au lieu du Créateur. Et en ce sens, il y a dans tous les hommes cette semaine religionis, cette semence de religion dont parlait Calvin, ou encore ce sensus divinitatis dont parlait Calvin, ce sens de la divinité. Tout homme est religieux. Et quand l'homme ne met pas sa foi en Dieu, il la met en un autre que Dieu. Et il sert et il adore une créature au lieu du Créateur, mais il n'y a pas un incroyant sur la terre, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la foi dans l'absolu, et l'homme ne peut pas vivre sans croire en quelqu'un ou en quelque chose, et s'il ne fiche pas, au sens originel du mot ficher, s'il ne fiche pas sa foi en Dieu, c'est qu'il la fiche en un autre que Dieu. Mais tout homme est croyant. Il s'agit de savoir s'il est croyant d'une foi fidèle ou d'une foi apostate, s'il est croyant d'une foi qui le tourne vers Dieu, qui le retourne vers Dieu, qui le convertit à Dieu, ou s'il croit d'une foi qui l'éloigne de Dieu. Mais, nous dit l'apôtre Paul dans le premier chapitre de la lettre aux Romains, tous les hommes sont inexcusables. Et c'est pourquoi nos pères et nos églises ont eu raison d'affirmer que Dieu se fait connaître d'abord par ses œuvres, par tout ce qui existe, et qu'il y a une révélation permanente et universelle de Dieu. Mais je dirais, cette révélation, les hommes ne veulent pas la voir. Connaissant Dieu, dit saint Paul, ils ne glorifient pas Dieu. Ayant en eux ce sens de Dieu que Dieu a mis dans leur cœur, les hommes mettent ce sens de Dieu au service de la créature. Et ils adorent et servent la créature au lieu du Créateur. Ils sont inexcusables. Mais ce n'est pas parce que les hommes sont aveugles à la révélation générale, universelle, permanente de Dieu depuis la création du monde, que cette révélation n'existe pas. Ce n'est pas parce que un aveugle ne voit pas un tableau, disons, de Rembrandt, que le tableau de Rembrandt n'est pas là sous ses yeux. Ce n'est pas parce que les hommes se refusent à glorifier Dieu que la révélation de Dieu n'éclate pas dans toute l'œuvre des mains de Dieu. Et vous le verrez, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans le premier chapitre des Romains. Alors, Dieu, qui se fait connaître d'abord par l'œuvre de ses mains, se fait connaître plus clairement encore par sa parole, qui au commencement révélée par oracle a été ensuite rédigée par écrit dans les livres que nous appelons l'Écriture sainte. Il y a la révélation universelle de Dieu et il y a la révélation particulière de Dieu. Il y a la révélation de Dieu par sa parole. À côté et avec la révélation de Dieu par l'œuvre de ses mains, il y a la révélation de Dieu qui a bien voulu parler aux hommes par des actes particuliers et des paroles particulières que des hommes ont vues et que des hommes ont entendues. Et c'est pourquoi l'apôtre Saint Jean, par exemple, dit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole ». Il s'agit de cette révélation particulière de Dieu, que Dieu a faite aux prophètes, que Dieu a faite aux apôtres, révélation qui culmine et qui est dans toute sa plénitude en Jésus-Christ notre Seigneur, et c'est cette révélation particulière qui a été inscripturée, qui a été inscrite dans la Bible. Et j'insiste que la Bible, l'Écriture sainte, fait partie de la révélation de Dieu. Et je dirais heureusement que l'Écriture sainte fait partie de la révélation de Dieu. On dit quelquefois qu'il y a la révélation de Dieu et que l'Écriture sainte est seulement le témoignage humain à cette révélation. Ça n'est pas biblique, cela. Ce qui est biblique, c'est que il y a la révélation de Dieu et que cette révélation de Dieu est allée jusqu'à inclure en elle les écrits des prophètes et des apôtres afin que nous connaissions bien, que nous sachions bien quelle est la révélation particulière de Dieu. Et je dirais que nous pouvons être doublement aveugles, aussi bien aveugles à la révélation générale qu'à la révélation particulière de Dieu. Et que, étant aveugle à ces deux formes de l'unique révélation de Dieu qui ne cesse pas de se révéler, nous sommes doublement inexcusables. Car nous n'avons pas seulement la révélation de Dieu dans l'œuvre de ses mains, mais la révélation particulière de Dieu dans cette parole de Dieu qui nous parle de Jésus-Christ d'une manière très particulière et du salut qui est seulement en Jésus-Christ, et c'est l'Écriture sainte. Voilà ce que disent nos pères, et je crois que nos pères disent là quelque chose qui est simple, que tout homme peut et doit recevoir, et que tout homme doit, écoutant cette confession de foi de l'Église, mesurer peut-être qu'il a été jusqu'ici inexcusable et ne pas prendre le temps de la patience de Dieu comme un temps d'indifférence, mais comme un temps de bonté jusqu'au jour où les yeux s'ouvrent, car les aveugles voient par la grâce du salut, par la grâce du Saint-Esprit, et les yeux se dessillent, et alors par l'Écriture, on apprend à connaître Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, le salut qui est venu accomplir Jésus-Christ, et par les lunettes de l'Écriture, comme dit Calvin, on peut à nouveau voir l'universelle révélation de Dieu dans l'œuvre de ses mains. Donc je dirais que s'il y a du côté de Dieu qui se révèle un premièrement qui est la révélation générale et un deuxièmement qui est la révélation particulière, si l'on se place du point de vue de l'homme, c'est l'inverse. Il y a le premièrement de la révélation de Dieu en Jésus-Christ et dans la révélation particulière de Dieu, et un deuxièmement, la révélation générale. Et c'est là où souvent des gens font des confusions et des erreurs. Dieu se révèle premièrement par l'œuvre de ses mains, deuxièmement par l'Écriture, mais pour nous, hommes, nous connaissons Dieu d'abord par l'Écriture et ensuite par les lunettes de l'Écriture dans la révélation de l'œuvre de ses mains. Mais je dirais, il ne faut pas, c'est pas parce que l'homme a tout fait de travers et que lui est obligé d'emprunter le chemin de la révélation particulière pour arriver à la révélation générale, qu'il n'y a pas cette vérité qu'affirment nos confessions de foi, à savoir qu'il y a d'abord la révélation générale et puis ensuite la révélation particulière. Ensuite, nous arrivons à l'article 3. Toute l'Écriture sainte est contenue dans les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le mot canonique vient d'un mot grec, canon, qui peut être traduit d'abord par liste, ensuite par norme, mais qui, dans le sens où le prennent les confessions de foi, signifie ayant autorité divine. Ce qui est canonique, c'est ce qui est revêtu d'une autorité divine. Si bien que ce que dit là notre confession de foi, c'est toute l'Écriture sainte est contenue dans les livres ayant autorité divine de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ensuite vient l'énumération, ou comme dit la confession de foi, le détail de ces livres canoniques. Pour l'Ancien Testament, les choses sont plus simples que pour le Nouveau, en ce sens que pour l'autorité divine de l'Ancien Testament, nous avons le sceau de l'autorité de Jésus lui-même. Autrement dit, si nous savons que les livres de l'Ancien Testament ont une autorité divine, c'est parce que Jésus-Christ, avec son autorité souveraine, nous l'a dit et l'a confirmé. Vous connaissez ces textes, en particulier, il y a dans le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc, ce que Jésus dit de tout l'Ancien Testament, de la loi, des prophètes et des écrits qui rendent témoignage de lui. Et puis il y a aussi cette parole que Jésus dit dans le chapitre 10 de saint Jean, « L'Écriture ne peut être brisée. L'Écriture est un tout. » Et l'Écriture dont parle Jésus, bien sûr, ça n'est que l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc, c'est l'autorité de Jésus qui place devant nous, chrétiens, l'autorité divine des livres de l'Ancien Testament. Quant aux livres du Nouveau Testament, c'est Jésus aussi qui en confirme l'autorité, mais non pas a posteriori, mais a priori, pour les livres de l'Ancien Testament, il a dit leur autorité après coup. Pour les livres du Nouveau Testament, il dit leur autorité avant, en disant à ses apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute. » C'est-à-dire que les écrits apostoliques ont la promesse de Jésus, « Qui vous écoute, m'écoute. » Et c'est ainsi que l'Église, peu à peu, a dû reconnaître l'autorité des livres de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Église qui a défini le canon, qui a choisi le canon, c'est-à-dire la liste des livres ayant autorité divine, mais ce sont ces livres ayant autorité divine, ce canon de l'Écriture sainte, qui s'est imposé à l'Église. Autrement dit, il ne faudrait pas que nous pensions une seconde que c'est l'Église chrétienne qui a décidé, Voilà les livres ayant autorité. Mais c'est l'autorité divine de ces livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui s'est imposée à l'Église. Et l'Église, peu à peu, n'a pu que s'incliner devant l'autorité de ces livres et reconnaître l'autorité de ces livres. Je passe l'énumération. Cette énumération a été faite parce que les catholiques romains, en ce qui concerne l'Ancien Testament, ont voulu, après la Réforme d'ailleurs, au moment du Concile de Trente, comprendre dans la liste des livres canoniques un certain nombre de livres que les Juifs eux-mêmes, que le peuple d'Israël lui-même, n'a jamais voulu reconnaître comme ayant autorité divine. Pour l'Ancien Testament, nous sommes liés à Israël. Nous sommes forcément liés à Israël. Le salut vient des Juifs. Et en ce qui concerne l'Ancien Testament, nous sommes tenus de ne reconnaître comme livres ayant autorité divine que les livres que les Juifs eux-mêmes, et Jésus parmi ces Juifs, ont reconnus comme ayant autorité divine. Et c'est pourquoi nous nous refusons à reconnaître l'autorité canonique, normative, divine des livres que les catholiques romains ont ajoutés et ont voulu ajouter à l'Ancien Testament. C'est pourquoi la liste de tous les livres de l'Ancien Testament nous est donnée pour le Nouveau Testament, puisqu'on donnait la liste des livres de l'Ancien, il fallait donner la liste des livres du Nouveau, mais entre catholiques romains, orthodoxes d'Orient et protestants, il y a le même Nouveau Testament. Et nous arrivons à l'article 4. Nous reconnaissons que ces livres sont canoniques, c'est-à-dire que ces livres ont autorité divine, et sont la règle très certaine de notre foi, non pas tant par le commun accord et le consentement de l'Église que par le témoignage et la persuasion intérieure du Saint-Esprit qui nous les fait distinguer des autres livres ecclésiastiques sur lesquels, bien qu'ils soient utiles, on ne peut fonder aucun article de foi. Il est sûr qu'il y a dans cet article cette petite pointe polémique au sujet de la liste des livres canoniques de l'Ancien Testament dans l'Église catholique romaine. Mais l'autorité divine, non pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'Église s'est inclinée devant l'autorité de ces livres, a reconnu leur autorité, mais parce que l'Esprit de Dieu vient tellement en accompagner la lecture qu'au-dedans des cœurs fidèles, l'Esprit Saint témoigne que ce que dit l'Écriture est vrai. Quand quelqu'un doute de l'Écriture, on peut toujours lui dire d'essayer de commencer à vivre avec cette Écriture et qu'au fond, la vérité de l'Écriture se prouve dans ce que la vérité de l'Écriture elle-même fait dans le cœur du chrétien, opère dans le cœur du chrétien. Ce n'est pas qu'il y ait d'un côté l'autorité de l'Écriture et de l'autre côté la persuasion du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes et les apôtres qui ont écrit la Sainte Écriture qui nous persuade intérieurement de la vérité de ce qu'ils ont dit. Autrement dit, la parole et l'esprit vont ensemble. Et d'ailleurs, c'est normal, car la parole et l'esprit procèdent de Dieu, et la parole ne dit pas autre chose que ce que l'esprit a inspiré aux prophètes et aux apôtres, et je dirais que l'esprit ne nous dit pas autre chose que ce qu'il a inspiré aux prophètes et aux apôtres. Autrement dit, la révélation de Dieu contenu dans l'Écriture sainte est la même révélation que celle dont le Saint-Esprit nous persuade. Et on ne peut pas donc opposer l'Écriture et l'Esprit, et ça au XVIe siècle, ça avait déjà été fait par certains hommes que l'on appelait à l'époque les fantastiques ou les spirituels, c'est-à-dire ces hommes qui prétextaient ce que l'Esprit-Saint pouvait leur inspirer pour adjoindre ces inspirations de l'Esprit-Saint à l'Écriture, et même dans certains cas pour opposer leur inspiration à l'Écriture. Non, la parole et l'Esprit vont ensemble, la vérité de l'Écriture et le témoignage du Saint-Esprit sont un. Et c'est pourquoi l'Écriture est pour nous la règle de la foi. L'article 5, d'ailleurs, va préciser encore les choses. Nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Pesons bien les choses. Il est certain que l'Écriture sainte a été écrite par des hommes, et en ce sens, il est certain que l'Écriture sainte est humaine. Jésus aussi était homme, et la vie de Jésus a été une vie humaine. Mais Dieu est à l'origine de Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, il a été accompagné tout au long de sa vie humaine par l'Esprit de Dieu. C'était le Verbe incarné, c'était le Fils éternel de Dieu, fait chair, la parole faite chair, si bien qu'il n'y a pas dans toute la vie de Jésus la moindre trace d'un seul péché. Et cependant, Jésus était véritablement homme. De même, l'Écriture sainte est humaine. Elle a été rédigée par des hommes, et par des hommes qui, en eux-mêmes, étaient faillibles et pécheurs. Mais l'Esprit de Dieu a tellement veillé sur ces hommes et triomphé en eux qu'il n'y a pas dans l'Écriture sainte d'erreur, et que l'Écriture sainte est humaine, mais qu'elle est en même temps totalement la parole de Dieu. Car les hommes qui l'ont écrit porté par le Saint-Esprit. Et l'Écriture tout entière, comme le dit Paul à Timothée, a été, on traduit quelquefois, inspiré, et d'ailleurs en effet en français, on ne peut pas mettre un autre mot, mais en réalité, il faudrait presque traduire, et il faudrait même traduire expiré. Autrement dit, toute l'Écriture vient de l'Esprit de Dieu, a été expirée par Dieu, et tout ce qui est écrit dans la Sainte Écriture a Dieu seul pour origine. De même que Jésus a pour seule origine Dieu, de même l'Écriture sainte a comme seule origine Dieu. Et de même que Jésus est la parole de Dieu incarnée, l'Écriture sainte est la parole de Dieu écrite ou inscripturée. Et il y a une autorité de l'Écriture sainte qui est telle que Jésus lui-même, parlant du mariage, par exemple, disait seulement aux Juifs qui l'écoutaient, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement ?» Ou bien il répondait au moment de la tentation, « Il est écrit. » Et pour Jésus, ce qu'on lisait dans l'Écriture suffisait. Et quand Jésus disait « Il est écrit », c'était pour lui une parole même de Dieu. Et je dirais qu'en effet, on peut faire un certain parallèle entre la parole incarnée et la parole inscripturée, et ce parallèle est le suivant. Bien que vraiment homme, Jésus est sans péché. Bien que vraiment humaine, l'Écriture sainte est sans erreur. De nos jours, il est courant, et vous le savez vous-même, d'entendre des réflexions de ce genre. Il y a dans la Bible des erreurs, il y a dans la Bible des contradictions, la Bible est faillible car les hommes qui l'ont rédigée sont faillibles. Il y a des difficultés dans la Bible et l'honnêteté veut qu'on les reconnaisse. Il y a dans l'Écriture des choses que nous ne pouvons pas comprendre, il y a des difficultés. Je dirais au sujet de l'Écriture ce que Newman disait au siècle dernier au sujet d'autre chose. Un tas de difficultés, cela ne fait pas une impossibilité. Il y a des difficultés. Mais il n'y a pas dans l'Écriture de contradictions. Ou plutôt, nous les hommes pouvons quelquefois voir des contradictions dans l'Écriture, mais c'est qu'alors nous n'avons pas vraiment reçu l'enseignement de l'Écriture et nous devons être toujours à la recherche de cet enseignement. Il y a des choses qui nous paraissent contradictoires alors qu'elles sont complémentaires. Et je dirais que les erreurs, ce que l'on appelle les erreurs de l'Écriture, ce sont en réalité bien souvent des erreurs que, ou bien des copistes, on peut y mettre pour des mots d'ailleurs en général sans grande importance, savoir par exemple si dans telle situation il y avait deux hommes ou trois, ou s'il y avait tel nombre ou tel autre, ce qui fait qu'il était très facile, surtout en hébreu par exemple, de commettre des erreurs au sujet des chiffres. Il peut y avoir des erreurs de copiste. Mais l'Écriture, telle que Dieu l'a fait écrire aux prophètes et aux apôtres, est aussi sans erreur que Jésus-Christ était sans péché. Et je dirais, c'est l'Esprit de Dieu qui, dans un cas comme dans l'autre, a triomphé de toutes les forces de destruction, de toutes les forces de péché et d'erreur. Et c'est pourquoi nos pères et nos églises, avec eux, confessent, nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine, qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Cette parole est la règle de toute vérité, contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut, et c'est pourquoi, lapidairement, notre confession de foi précise, il n'est donc pas permis aux hommes, même quand ce sont des hommes d'église, même quand ce sont des théologiens, même s'il s'agit d'un concile, pas plus qu'aux anges d'ailleurs, d'y rien ajouter, retrancher ou changer. Il est écrit, c'est comme ça. Ça peut nous plaire, ça peut nous déplaire, c'est une autre question. Ça peut nous causer ou nous présenter des difficultés, c'est une autre question. Mais les hommes n'ont pas le droit d'y toucher. Comme dit Jésus, l'Écriture ne peut être brisée. Elle est un tout, tel que Dieu l'a voulu. Lui qui a inspiré les prophètes et les apôtres, et heureusement que nous avons cette Écriture sainte, sans quoi nous serions livrés aux caprices et aux imaginations des hommes, et il faut reconnaître que dans l'histoire de l'Église, les ecclésiastiques, les prêtres, les pasteurs et les théologiens ont eu souvent une imagination fertile. Mais nous ne leur sommes pas soumis. Nous n'avons pas à les écouter quand ils attaquent ou qu'ils changent l'Écriture, mais nous avons seulement à les écouter quand ils attirent notre attention sur ce qu'enseigne l'Écriture, et comme les chrétiens de Béret, et j'insiste là-dessus, nous devons toujours vérifier dans l'Écriture la vérité de ce que nous enseignent les églises ou les pasteurs ou les théologiens. Et quand il faut choisir, il faut préférer la parole de Dieu à la parole des théologiens et des pasteurs, quand même ils seraient extrêmement pieux, quand même ils seraient extrêmement mystiques, quand même ils seraient extrêmement intelligents, et quand même ils seraient extrêmement séduisants. Et je dirais, heureusement, nous les chrétiens, nous avons cette autorité normative, cette autorité divine. Et je dirais, je plains en ce moment beaucoup, je m'excuse de cet excursus, mais nous sommes au XXe siècle, nous sommes devant les conditions de notre temps, je plains beaucoup nos frères catholiques romains. Parce qu'on leur a enseigné pendant des siècles, et on leur enseignait encore il y a 20 ans, que l'Église était infaillible, qu'elle ne pouvait pas se tromper. Et alors en ce moment, au Concile, il se passe de telles choses que toute la foi de certains catholiques romains, qui étaient justement non pas dans la Sainte Écriture, mais dans l'enseignement de l'Église, est ébranlée. Et il y a même des cardinaux qui en sont tombés malades, parce qu'ils avaient cru toute leur vie en des choses que l'Église leur avait enseignées, soi-disant avec infaillibilité, et puis maintenant l'Église vient leur dire autre chose. On avait enseigné aux catholiques, par exemple, que la liberté religieuse était une abomination, parce que l'erreur n'avait pas le droit d'être libre. Et maintenant, le Concile est conduit à dire que la liberté religieuse doit être respectée. Nous, nous trouvons d'ailleurs très normal, en tant que protestants, que la liberté religieuse soit respectée. Mais je dirais, mettez-vous un peu à la place des catholiques, auxquels on a dit que c'était une vérité divine, qu'il ne fallait pas croire en la liberté religieuse, et auxquels on dit maintenant qu'il faut y croire. Ça, c'est un ébranlement. Eh bien, l'ébranlement, il est aussi pour les protestants ou pour les orthodoxes. Il est pour tous les chrétiens, chaque fois qu'au lieu de mettre leur confiance dans la seule parole de Dieu, ils écoutent un peu par trop les enseignements ecclésiastiques étrangers à cette parole ou divergents de cette parole. Oui, soyons une maison fondée sur le roc. Et c'est pourquoi chaque chrétien, chaque fidèle, a une responsabilité particulière. Il n'aura pas le droit de dire à Dieu un jour, mais mon pasteur m'avait dit, mais mon église m'avait dit, mais le théologien un tel m'avait dit, mais le savant docteur un tel m'avait dit, parce que Dieu pourra lui répondre, c'est possible. Mais voilà ce que moi, je t'ai dit. Et la parole de Dieu seule a cette autorité normative, et c'est à elle que nous devons nous accrocher. Et je dirais, quand nous nous accrochons à la parole de Dieu, même quand ça nous est difficile, parce que je vous l'avoue, c'est vrai, il y a dans la Bible des choses que j'ai beaucoup de peine à croire, beaucoup de difficultés à croire. Mais puisque c'est Dieu qui le dit, je le crois. Parce que je crois que Dieu n'a pas inspiré en vain les prophètes et les apôtres. Parce que Dieu n'a pas porté par son Saint-Esprit en vain des hommes pour qu'ils nous communiquent ce qu'ils voulaient que nous sachions pour notre vie, pour notre mort, pour notre destin éternel. Et c'est pourquoi j'attire votre attention sur ce que dit là notre confession de foi, car c'est un principe à la fois de responsabilité et de libération. De responsabilité parce que personne ne peut se décharger, même sur l'Église, de ce qu'il croit. Ce que je crois, allez le demander à Rome, disait un catholique du siècle dernier. D'ailleurs, c'est très difficile, ça devient de plus en plus difficile parce que Rome change. Alors, on ne sait jamais ce que dit Rome. Elle vous dit blanc un jour, elle vous dit noir le lendemain, elle fait d'une manière un jour, elle fait d'une autre manière le lendemain. Non, ce que je crois, c'est ce que Dieu me dit, c'est ce que Dieu révèle. Et je dois m'attacher à ce qu'il dit et à ce qu'il révèle. Et c'est pourquoi nous avons un devoir. Je vous assure que les chrétiens ont un devoir. Je vais vous raconter une anecdote que je crois je vous avoir déjà racontée l'année dernière. Dans la seconde moitié du siècle dernier, un jeune pasteur hollandais qui s'appelait Abraham Kuyper est arrivé dans un village. Il sortait de la faculté de théologie où des professeurs lui avaient appris toutes sortes de belles choses, mais je m'empresse de les dire qu'il n'était guère conforme à l'écriture sainte. Et Abraham Kuyper, il s'est mis à prêcher ce que ses professeurs lui avaient enseigné. Puis il a fait des visites. Et au cours d'une de ses visites, il est tombé chez une jeune paysanne qui était une mère de famille, simple paysanne, dans un petit village de Hollande. Et le pasteur s'est mis à parler à cette paysanne. Et cette paysanne lui a dit, c'était très bien, monsieur le pasteur, le culte, le sermon que vous nous avez fait, c'était intéressant. Mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. Kuyper, ça lui a fait un petit choc. Il s'est mis à parler à cette jeune paysanne. Et c'est cette paysanne qui a ramené Kuyper à l'Écriture sainte. Et c'est par l'entremise de cette petite paysanne que Dieu a fait d'Abraham Kuyper un réformateur de l'Église de Hollande. Eh bien, je dirais que c'est le devoir de tout chrétien. Quand nos pasteurs prêchent la parole de Dieu, alléluia, écoutons-les, c'est notre devoir de fidèle. Mais quand nos pasteurs nous prêchent ce qui leur chante ou ce que leur théologie imaginative leur fait dire, ramenons-les à l'Écriture. C'est un devoir. et prions pour eux pour qu'ils soient fidèles à l'Écriture. Et nous-mêmes, efforçons-nous de nous soumettre à la parole de Dieu. Il y a des choses que je n'aime pas dans la parole de Dieu, naturellement. Je vous l'ai dit déjà aussi l'an dernier, par exemple. Vraiment, peut-être je voudrais que tous les hommes soient sauvés. Et puis l'Écriture me dit qu'il y a des hommes qui ne seront pas sauvés. C'est un avertissement, et en même temps, ça ne me plaît pas. Je vous le jure, ça ne me plaît pas. Mais la Bible le dit, et je le crois. Et je crois que nous devons nous ranger à ce que dit l'Écriture. Elle est la règle. Même les anges n'ont pas le droit d'y changer. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, si un ange vient vous dire un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, ne l'écoutez pas. Nos pasteurs n'ont même pas droit quand même au titre d'ange. Alors s'ils nous prêchent un autre évangile, ne les écoutons pas. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette Écriture sainte. Il peut y avoir, et il doit y avoir, tout cela. L'ancienneté, les coutumes et le grand nombre, nos pères ne disent pas que c'est mauvais tout ça. Non, non. Mais ça ne doit jamais être opposé à l'Écriture sainte, mais au contraire, tout cela doit être examiné, réglé et réformé d'après elle. C'est bon qu'il y ait des traditions dans l'Église, et c'est bon qu'il y ait des conciles et des synodes. Mais à condition, et c'est bon qu'il y ait des miracles. J'ai été témoin dans ma vie, en tout cas d'un miracle. Et c'est bon qu'il y ait des miracles. Mais dans aucun cas, tout cela ne peut être opposé à l'Écriture. Et c'est important qu'aujourd'hui, nous retrouvions ce sens de la parole de Dieu. Dans cet esprit, achève l'article 5, nous reconnaissons les trois symboles. À savoir le symbole des apôtres, c'est le credo que nous entendons dans la plupart de nos églises tous les dimanches, le symbole de Nicée et le symbole d'Athanase, parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. On dit quelquefois les symboles écuméniques. En fait, je me permets de vous faire remarquer que ça n'est pas exact, car les églises d'Orient n'ont jamais reconnu ni le symbole des apôtres, ni le symbole d'Athanase. En fait, le seul symbole qui soit vraiment écuménique, c'est-à-dire que catholiques, protestants et orthodoxes reconnaissent, c'est le symbole de Nicée, que l'on dit d'ailleurs très rarement dans nos églises protestantes, ce qui a bien des égards et dommages, parce que liturgiquement et dogmatiquement, il est très beau et il est très plein. Et ce symbole de Nicée, c'est le symbole vraiment écuménique, je veux dire, c'est le symbole où tous les chrétiens se retrouvent. Mais c'est pas parce qu'ils sont écuméniques que nos pères de la Réforme les reconnaissent. Pas parce qu'ils sont écuméniques. C'est parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Imaginez qu'un jour il y ait un concile réunissant des représentants de toutes les églises chrétiennes et disant à tous les chrétiens, voilà ce qu'il faut croire. Il ne faudrait y croire que si ce que ce concile dit est conforme à la parole de Dieu. C'est pas l'écuménicité qui fait l'autorité des décisions d'un concile. C'est la conformité de ces décisions à la parole de Dieu. Et il y a eu un moment, je me souviens vous l'avoir dit l'an dernier, où toute l'Église était arienne. Dans son immense majorité, c'est-à-dire où la plupart des chrétiens niaient et rejetaient la divinité de Jésus-Christ. C'était quand même quelque chose, ça. Rejeter la divinité de Jésus-Christ. Et bien, il y a eu une immense majorité de l'Église pour le faire. Et il y a même eu des conciles dans ce sens. Et Athanase, On parle ici du symbole d'Athanase, c'est pourquoi je me permets de faire allusion à cela. Athanase était quasiment seul.